Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Vous avez remarqué, l'enfant, un homme en devenir. Ça va changer peut-être un petit peu de ce que nous entendons habituellement, des uns et des autres d'ailleurs. Mais c'est important. Vous savez que l'enfant a une place importante dans la Bible, avec des recommandations, avec finalement des façons d'être. Parce qu'il y a l'enfant, mais il y a aussi les parents. Alors tout ça, ça fait une famille. Et c'est intéressant donc de prendre en compte toutes ces notions, parce que nous avons été enfants. On s'en souvient plus ou moins. Et puis nous sommes devenus des adolescents, nous avons passé la jeunesse, et puis on a traversé l'âge mûr. Hein. Et puis, aujourd'hui, on a des cheveux blancs. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Proverbes, et nous allons donner des explications à tout ça. C'est intéressant de prendre en compte, parce que quand on voit aujourd'hui la société dans laquelle on est, on peut se poser des questions. Il y a toujours eu des turbulents, hein, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que ça va plus loin que tous ces mouvements qu'il y a eu dans le passé. Et on peut s'inquiéter quand même. On a de quoi s'inquiéter et c'est notre responsabilité d'avoir à la fois nos yeux et notre cœur sur nos enfants ou à cœur nos enfants. Lorsqu'ils sont adultes, majeurs, nous les parents, s'ils viennent nous voir pour demander des conseils, on ne va pas leur refuser naturellement, mais ils sont, en mesure, en fonction de l'éducation qu'ils ont reçue, savoir comment se diriger dans la vie, et surtout dans un but réussir. Et puis ensuite, pour nous, chrétiens, qu'ils puissent véritablement passer cette existence à la gloire de Dieu. C'est tout un programme. Alors voilà, je vous indique le passage. Alors ne soyez pas effrayés, je vais vous donner des explications, parce que quand vous allez voir le passage, vous allez me dire, oh là là, ça ne doit pas être facile de vivre avec Alain. C'est un sacré grand-père. Hein. Alors, Proverbe, chapitre 23 et verset 13. Chapitre 23, verset 13-12, par exemple. Alors, c'est un père qui parle à son enfant ou une maman. Il est dit ceci. 23-12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Et puis il est ajouté, parce que on va changer peut-être un peu les mots, on va mettre le mot « école ».« N'épargne pas la correction à l'enfant. » Et si tu le frappes, je ne vais pas dire le mot, parce que c'est bâton, hein, il ne mourra point. Et on va voir où sont les limites de l'éducation, on le verra. Donc, l'enfant, un homme en devenir. Selon le message biblique, il est question de correction. Alors, on a parlé de maison de correction dans le temps. Aujourd'hui, c'est d'autres mots, c'est tout simplement pour cadrer, pour enseigner. Enseigner, oui, parce que finalement, celui qui, là, va de droite au gauche, n'apprend rien, ou des mauvaises choses, il apprend le mal. Alors, il est question finalement de correction. Et dans la Bible, et sous les mots finalement qui nous sont donnés dans l'Écriture, ce n'est jamais une punition. Parce qu'une punition, ça n'apprend rien. Ça n'apprend qu'à craindre. Ça n'apprend qu'à faire peur, à redouter ceux qui sont devant nous, les adultes ou les parents, ou ceux qui... instituteurs, professeurs, etc., etc. Ça, il faut le dire. Mais dans cette écriture, c'est toujours dans un sens positif. Eh oui. Maintenant, comment donner une éducation quand on n'en a pas reçu une nous-mêmes et que finalement, on ne sait pas quoi faire avec nos enfants? Ça, c'est aussi un aspect des choses. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment Dieu a-t-il entendu les choses pour donner à l'humanité qui se succède, finalement, et bien là, de décennie en décennie, de siècle en siècle, qu'est-ce que cela peut signifier? Avant tout, c'est une éducation. C'est un enseignement, et nous avons toute la substance d'une école complète à travers la Bible. Il y a de tout dans la Bible. Et voilà, une connaissance intellectuelle, une connaissance spirituelle, une connaissance morale avant tout, parce que c'est ça le sujet. Et puis bien d'autres choses. C'est une discipline, c'est-à-dire apprendre à faire, eh bien, à mettre les limites. Une discipline en vue d'une formation, et cela pour nous, et si c'est des enfants, pour leur vie. Avec cela, ils vont partir avec un bagage. Ils vont partir avec une idée tout à fait particulière du faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de vivre ou finalement, eh bien, laisser notre vie ou notre existence, eh bien, partir à volo. On peut peut-être présenter les choses. C'est apprendre à discerner le bien et le mal. Vous savez que le mal est plus facile de pratique que le bien. Tout dépend naturellement, eh bien, finalement, eh bien, de ce que nous avons acquis, de ce que nous avons retenu. Le bien du mal, le bon et du mauvais. Vous savez, il y a de quoi pleurer dans la société d'aujourd'hui. Hein. Mais le monde a toujours été comme ça. Hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. On n'a rien inventé. Parce que quand on voit les cruautés, quand on voit finalement la dureté peut-être de certaines époques, hein, la violence à travers le sans-pitié, à travers, là, eh bien, toutes sortes de mal qui, bien, donnent libre cours, on se dit, mais de toute façon, on n'a rien inventé. Vous savez, c'est les moyens qui ont été inventés, des moyens encore plus performants, on pourrait dire, pour la pratique du mal. Aujourd'hui, on se bat plus sur les champs de bataille avec une épée, avec des flèches, et puis un arc, ou des choses comme ça. Ça va beaucoup plus loin, hein. Et aujourd'hui, ça retient peut-être, mais jusqu'à quand ça va retenir l'homme de ne pas se livrer corps et âme complètement et totalement, pleinement, dans finalement eh bien, tous les abus possibles, jusqu'à la destruction de notre humanité, de la créature. Alors on n'en est pas là, hein, mais je pense qu'on y va. L'entêtement des hommes, leur opiniâtreté, ce refus de voir la vérité en face, toutes sortes de choses, le bon, le mauvais, le bien, le mal. Je voudrais expliciter, mais je ne vais pas faire le commentaire, mais à travers un texte, pour nous dire les dispositions qui sont celles de Dieu, quand il veut nous enseigner. Et là, ça s'adresse à des chrétiens. Maintenant, que les gens du monde en profitent, que les gens du monde le sachent, et peut-être se normalisent avec ce texte de Hébreux, chapitre 12, on va voir un peu ce qu'il en est. Parce que c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Alors, j'ai dit Hébreux, chapitre 12, verset 6. Ou même peut-être un petit peu plus loin, un peu avant, pardon. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ah, ça a toujours été un mystère, hein. Ben, s'il m'aime, il ne faut pas qu'il me châtie, faut pas qu'il me maltraite. Mais Dieu ne maltraite personne. Nous nous maltraitons nous-mêmes en prenant des voies sans issue ou des chemins de traverse. Alors il est bien dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge, le bâton, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est une reconnaissance, mes frères et sœurs. Alors n'allons pas nous apitoyer en disant « il m'arrive depuis que je suis chrétien ou parce que je suis chrétien, il m'arrive toutes sortes de choses ». Il y a de quoi se plaindre quand on voit les hommes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui sont frappés, jetés en prison, dénutris, enfin bon, sans... On voit l'apôtre Paul, par exemple, à travers tout ce cliché. Et il nous est demandé ceci, supporter. Il n'est pas question d'aimer le châtiment ou d'aimer la correction. Il nous a demandé de la supporter. C'est un exercice qui va développer chez nous, eh bien, à la fois l'espérance la foi, la confiance. Et c'est un encouragement. Supporter le châtiment, c'est comme à des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Sachez que nous avons un Père bienveillant et que nous sommes ses enfants. Et c'est comme ça qu'il nous reconnaît. Mais remarquez, est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe avec dans notre propre famille ? Moi, j'avais des parents, ils étaient bons. Oui, ils ne sont plus là maintenant. Mais en tous les cas, je savais qu'ils nous aimaient, nous, avec mes frères. Oui, oui. Et une chose qui est certaine, c'est que j'en ai gardé le souvenir. Alors peut-être que c'est un exemple pour moi élever mes enfants, ce qui a été fait maintenant. Hein. Je suis passé la barrière. Ou les petits-enfants. Hein. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils. Parce que nous, en tant que parents légitimes, dignes de ce nom, nous n'allons pas faire du mal à nos enfants pour le plaisir de leur faire du mal. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Oui, quel privilège d'être chrétien ! Quel privilège de pouvoir dire dans notre prière « Notre Père qui es aux cieux ». C'est important. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, c'est ceux que je parlais il y a un instant, nous ont châtiés, c'est vrai, j'ai reçu peu de fessées et peu de claques, c'était la rareté chez moi, mais bon, il y avait une autre façon, et pourtant, ils n'étaient pas chrétiens, mes parents. Hein. Quelquefois, les gens du monde font peut-être mieux, ça peut arriver. Et que nous les avons respectés, parce que ce n'est pas parce que nous avions eu là, eh bien, une réprimande, ou sérieuse ou pas, mais peu importe, nous les avons respectés, nous les avons craints. Ce n'est pas que nous avions peur d'eux, mais nous les avons respectés. Alors, à combien plus forte raison, parce qu'il y a quelqu'un qui est notre Père qui est dans les cieux, il est plus haut, il est plus grand, il est parfait, nous pourrions dire. Alors, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, le Père des esprits. Parce que c'est la formation de notre esprit, c'est pas seulement la formation physique de notre corps, de là notre vie matière, de notre vie qui est issue de la poussière, comme on l'a chanté tout à l'heure. Mais c'est beaucoup plus que cela. Notre Père, qui est aux cieux, c'est l'esprit. C'est avec un grand E. Et il nous forme moralement, il nous forme psychologiquement. C'est pas seulement intellectuellement, parce que ça fait partie de l'âme, tout ça. Mais c'est en vue de notre destination éternelle, où là-bas, notre âme sera changée. On ne va pas la perdre, hein, mais dans une vie spirituelle. C'est notre esprit. Alors, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, selon l'éducation qu'ils voulaient nous imprimer. Mais Dieu qui châtie pour notre bien, toujours la même chose, afin que nous participions à sa sainteté. C'est ça le but ultime. La terre est une école, la terre est un collège, c'est un lycée, c'est les études supérieures pour arriver là-bas de toute manière. Et nous voyons qu'il le faisait il le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alors il est vrai. Et je vais terminer là-dessus, sur ce passage. Il est vrai que tout châtiment, d'abord, semble un état de tristesse. Ah ouais, quand on se fait assaisonner, quand on en entend, parce que quelquefois, et nous allons le voir tout à l'heure, il y a quelquefois des débordements, même dans les familles. Les mamans sont beaucoup plus tendres dans l'approche. Mais quelquefois, eh bien, voilà, les pères, c'est la masculinité. Masculinité, hein, avec toutes ces vivacités et tout ça. Hein. Bon, on en parlera. Un sujet de tristesse et non de joie. Ben oui, bien sûr, hein, quand on s'est fait fesser, excusez-moi l'expression, hein, c'est infantile, mais c'est comme ça. Hein. Alors, cela produit plus tard, il nous est dit, plus tard, eh bien, quelque chose qui devient un fruit, un bon fruit. Vous savez, un arbre. Quand il est dans le vent, quand il est sur la montagne, quand il y a des tourments, quand il y a des tourments climatiques, etc., ben il s'enracine et il va péniblement peut-être produire, eh bien, non pas tant un feuillage, parce que ça ne sert pas forcément à tout, mais il va produire des fruits. Et moi, je pense que le but ultime de notre vie spirituelle, de notre passage sur la terre, de l'éducation, de l'école de Dieu, c'est de porter des fruits. Et moi, je vous dirais, vous en avez le souvenir, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, à travers la patience, à travers la foi, la confiance, à travers la maîtrise de soi, etc., etc. Je ne veux pas les citer tous, mais c'est ça. Parce que c'est ça ce qui va demeurer là-bas. Ce n'est pas nos œuvres dans le ciel. Ce n'est pas nos œuvres. Mais c'est nos fruits. Le fruit de l'esprit. C'est pour ça que nous atteindrons. Non plus nous sortirons de la sanctification, parce que c'est pour ici-bas, mais nous rentrerons dans la sainteté éternelle de Jésus de Dieu. Ça va ? Vous vous sentez pas fouetté ? J'ai employé les mots. Alors, il y a un texte aussi, avant de rentrer dans le commentaire un peu plus précis. Proverbe, chapitre 22, verset 6. Et là, c'est pour nous, parents, jeunes ou anciens. Instruis l'enfant, 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors, nous avons tous un petit peu de moralité pour savoir ce que ça veut dire, le mot moral. Voilà. La voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, et on ne sera plus là, parce que c'est rare quand même quand on voit un enfant qui est aussi vieux que son père. Mais il y a un problème. Ça doit être génétique ou je ne sais pas quoi, mais bon. Alors, quand il sera vieux, écoutez, c'est une promesse pour chacun d'entre nous qui va nous encourager ce matin, mes frères et sœurs. Quelquefois, vous êtes peut-être découragés en disant, mais avec mon fils, avec ma fille, avec quel que soit son âge, est-ce que c'est encore un enfant? Est-ce que c'est encore... Il est adolescent, mais bon, il n'est pas majeur. Non. Eh bien, vous savez qu'il y a ça. Il y a cette parole. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Comptez là-dessus. Vous me dites, mais j'arrive pas. On ne sait pas. Il ne me montre aucune preuve, finalement, eh bien, qu'il grandit. C'est encore, finalement, eh bien, un ado, etc. Vous savez qu'il y a des gens, même des chrétiens, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Mais quelquefois, ils se comportent encore comme des adolescents. Hein. Alors, ben, faut avancer à un moment ou à un autre. Faut avancer. C'est nécessaire. D'abord, qu'est-ce que veut dire punir ? Punir, on a l'idée un petit peu de la scolarité, parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, hein, parce qu'autrement, l'instituteur, il va en prison, hein, je peux vous le dire. Hein. La règle et les doigts. Voilà. Vous ressortiez, vous n'avez plus que des moignons. Non, quand même pas. Bon. Alors, punir, c'est faire souffrir excessivement et volontairement, c'est administrer des violences par ceux qui sont chargés de nous conduire dans notre évolution, dans notre, eh bien là, finalement, notre vie. Parce que, quelque part, on les a dérangés. Ah oui, un enfant qui crie, etc., etc. Parce qu'ils sont frustrés de leur propre vie, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont agacés, et ils reprennent leurs enfants, auxquels ils sont chargés, finalement, eh bien, de donner une éducation aimante, normalement. Eh bien là, ils sont chargés, eh bien, de traiter les choses quand les enfants bougent un petit peu trop, et ça, un enfant, ça bouge, hein, y a pas de problème, sans discernement, et c'est une question aussi de moyens sur le corps. Il frappe, voilà. Même si le gamin, il a pas fait grand-chose, hein, il faut savoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. Un enfant qui casse malencontreusement un vase ou une assiette à table, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas de péché dans cette affaire. Oui. Mais par contre, s'il nous ment, si véritablement il est insolent, s'il est irrespectueux, alors à ce moment-là, attention, il y a deux choses. Hein. On peut tous casser, même un adulte, on peut tous casser une assiette ou un vase, même précieux. Mais par contre, il faut faire la différence, parce que si vous sentez qu'il y a là, eh bien, un enfant qui biaise, qui ment, qui essaie de développer des choses qui sont... alors ça, c'est deux choses. Et il faut faire attention, parce que si, à chaque fois qu'un enfant maladroit casse quelque chose, il va avoir des joues toutes rouges, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ça peut vous arriver aussi. On n'est pas content, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, on parle maintenant du refus. Refus de refuser toute discipline augure plus tard, parce que ça c'est aussi les choses de la vie, augure plus tard une vie peut-être d'échec chez l'enfant devenu plus grand, une existence sans repère ou limite, parce qu'on ne lui a pas mis finalement les frontières où il fallait les mettre. Il ne sait pas, il passe. C'est une forme d'inconscience quelque part. Mais si on ne lui a pas appris, comment le sera-t-il ? Oui, en se brûlant, ça c'est sûr. Mais il faut déjà prévenir. danger, attention, ne te dirige pas par ceci, par cela, etc. Et ça sera suivi dans la vie de l'enfant qui va devenir grand de nombreuses peines dans le contexte familial, parce que comment va-t-il gérer aussi sa propre famille quand il va se marier et qu'il aura des enfants lui-même ? Ça, c'est sûr. D'insociabilité dans la société, la vie professionnelle, la vie d'entreprise, etc. Et puis également d'irrespect. Hein, tout va le déranger et puis il va manquer de respect à tous ceux qui veulent lui dire quelque chose, même en bien. Hein. Irrespect. C'est terrible aujourd'hui. Hein. Quand on voit un petit peu, parce qu'on est abreuvé de toutes sortes d'images, hein, et puis des chroniques de presse ou autre chose. Mais c'est terrible. Quand on voit que même les gardiens de la paix, les policiers, si vous les entendez par là, ou les gendarmes, ne peuvent plus arrêter quelqu'un, et même s'ils l'arrêtent, eh bien, même s'ils outrepassent, puisque maintenant, on tutoie les gendarmes, et les gendarmes tutoient l'interpellé, hein. Et de voir comment ça se finit et se passe, mais on se dit, mais c'est terrible. Apprendre le respect des autorités, que ce soit sur le plan de l'école, que ce soit du plan familial, naturellement, hein, et avec des noms, avec des injures, hein, avec toutes sortes de choses qui sont innommables, naturellement, hein, les impolitesses et tous les autres désordres. Aujourd'hui, on entend des villes qui commencent à résonner, hein, Nîmes, Montpellier, Grenoble, hein, Marseille, ça c'est certain, hein, tous ces... Et on voit qu'on est prêt maintenant, on se promène même en ville, hein, avec des armes grandement dangereuses, et ça n'en finit pas les discussions, ceci, cela, etc., etc. C'est terrible, hein. Et le nombre de morts, hein. Et souvent des gens qui disparaissent sur le plan collatéral. Hein. Ils n'ont rien demandé, comme cette jeune fille il y a 2 ou 3 ans qui se fait... Le gars, il tire sur l'immeuble, elle est derrière une fenêtre ou un truc comme ça, hop, elle disparaît, hein. Elle meurt. C'est terrible, on est choqué. Mais vous ne croyez pas qu'on a vraiment dégradé depuis des années, parce que nous, on est de la vieille école, je peux vous dire qu'il fallait respecter. Hein. Ouais, mais on n'est pas mort. Et quand on ne respecte plus, on donne la mort. On se donne soi-même la mort. Toute discipline progressivement sur le fait des jours qui passent, naturellement, vise à améliorer, c'est-à-dire rectifier. Parce qu'on n'aurait pas, si on était tous parfaits et tout ça, on n'aurait pas à passer par ces écoles, quoi qu'il en soit, à améliorer, à redresser et à discerner les limites de ce qui est correct ou son contraire incorrect dans la manière de vivre en communauté. Ça arrive quelquefois dans les églises. Oui, ça arrive dans les églises. Bon, mais il n'y a pas de raison pour justifier ça. Parce que dans une église, il doit y avoir autre chose. Moi, je me souviens... Il y a quelques années, il y avait une ébullition, la marmite chauffait tellement à Saint-Nazaire, dans une assemblée générale. Il y a quelqu'un qui criait, et qui criait très fort, devant les gendarmes, parce que je les avais fait venir. Oh là là, vous allez dire, mais où on a mis les pieds ? Oh ! Notre pasteur est un gourou ! Alors bon, moi, ça me passait par-dessus les oreilles, parce que... Oui, par-dessus les oreilles. Mais c'est pour dire qu'on ne respecte rien. Et malheureusement, mes frères et sœurs, c'était dans la bouche de chrétiens. Moi, pour moi, ce sont des gens toxiques. Et des gens qui n'ont pas leur place au milieu de nous. Parce que s'ils sont comme ça en public, ben, ils voulaient avoir raison sur tout le monde. Bon, après, tout le monde s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On a entendu. Hein. Combien de fois, parfois, on s'est fait insulter, hein, même du haut de l'estrade. Oui, parce que ça ne plaisait pas. Mais si ça ne plaît pas, ils ne sont pas obligés de venir. Hein, et puis de laisser les autres, qui sont quand même une grande, grande, grande majorité, qui veulent écouter la parole de Dieu et qui veulent se faire du bien. Alors bon, moi j'ai l'habitude, gentiment, de ne pas me laisser faire. Parce que moi je suis là pour vous. Je suis là pour les âmes qui sont ouvertes à l'enseignement du Seigneur. Je fais ce que je peux, hein. C'est pas la panacée. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut que vous puissiez être dans des conditions de paix, de repos, et que vous puissiez recevoir la parole de Dieu comme la meilleure nourriture qui soit possible pour que vous puissiez grandir et vous développer. Naturellement, la paix. Les choses sont semées dans la paix pour procurer la paix. Alors, on a dit qu'il faut absolument avoir une instruction qui est celle du Seigneur. Hein, pour nous, ce n'est pas autre chose, pour le savoir-vivre. Et là, je parlais de manque de savoir-vivre. Parce que bon, voilà, c'est ainsi. La discipline, elle nous enseigne les bases fondamentales. Ah, ce n'est pas de niveau universitaire, hein, ici. Hein, mais néanmoins, dans la compréhension. Qui favorise les bonnes relations et les ententes entre les diverses générations ou avec les générations du même âge. Hein, je pense les jeunes avec les jeunes, et puis les jeunes qui vont respecter les anciens qui vont respecter les jeunes, que ce soit un vieux pasteur, on dit, voilà, il a du mal à marcher, ou alors un jeune, parce qu'il commence et on dit, il sait pas faire les choses, il n'a pas d'expérience. Eh bien, faut respecter les choses. Parce que celui qui, quelque part, est trop jeune, on dit, bah oui, mais bon, il est comme ça, etc. Mais laissez-lui du temps, il va se développer. Accueillez les jeunes, même un futur pasteur, peut-être qu'il y en aura un bientôt. Hein, je ne sais pas, mais il ne faut pas dire, comme quelquefois nous l'avons entendu, « Oh bah oui, mais il n'a pas d'expérience. Bah, » Bien sûr qu'il n'a pas d'expérience, mais il va en faire. Hein. Il ne va pas échapper parce qu'il va passer devant tout le monde, hein, pour les expériences. Parce que le Seigneur s'occupe du corps pastoral, hein, ça c'est clair. Alors, sans jamais oublier qu'un mauvais ou bon choix que nous faisons dans la vie, pour nos enfants par exemple, parce que je reviens sur la pensée, aura des conséquences de réciprocité. Si on leur enseigne le bien, ils feront le bien. Si on leur enseigne les choses douteuses, eh ben ils auront tendance à suivre le doute, enfin toutes sortes de choses douteuses aussi. Voilà. Et il faut le savoir l'expliquer. C'est ce que je fais ce matin, comme je peux. Alors attention de ne pas confondre les mots maintenant. Parce que on entend des choses qui sont quelquefois l'amour et la haine. Vous savez qu'il y a une pièce de théâtre qui va sortir sur un film qui est sorti il y a une trentaine d'années, La Haine. Et il y avait une bande-annonce pour aller voir ce théâtre, parce que c'est un théâtre, où il était question, la bande-annonce c'était « Ils vont vous apprendre à aimer la haine ». Moi, choqué. Shocking. Ah ouais, franchement. Myriam n'avait pas compris, je lui ai dit « Je vais t'expliquer ». Mais bon, toujours est-il que c'est fou maintenant ce que... Dans le temps, il y avait quelque chose. Je ne suis pas pour tout ça, mais il y avait la censure gouvernementale. Il y avait des choses qui passaient, des choses qui ne passaient pas. Ah bon, on a vu, hein, à un moment donné, la porte est ouverte, grande ouverte. Et aujourd'hui, que ce soit la sensualité, que ce soit la drogue, que ce soit n'importe quoi, il n'y a plus de censure. Voilà. Et que font les parents dans cette affaire ? Ben, il doit être absent, hein. Probablement. Hein. Alors attention aux mots. L'amour, il y a des fruits. La haine, il y a des actes. Pas confondre la faiblesse. Pas confondre le laxisme. Pas confondre la dureté. Parce qu'attention, là, on peut tuer les gens. Hein. L'intransigeance, comme les pharisiens, parce que c'était de nature spirituelle. Le légalisme à outrance. Ah oui, nos églises sont passées par là. Elles le sont moins maintenant. Mais c'est bien parce qu'on a quand même appris ce que voulait dire dans 1 Jean, chapitre 1, oui, le chapitre 1er, et il est dit à un moment donné, « La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, je voudrais encore vous répéter qu'on est sous la grâce et pas sous la loi. Et on l'a utilisé dans nos églises. Hein. « Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Habille-toi comme ça, habille-toi comme ceci et cela, etc. etc. » Alors bon, je pense que si on le fait, on ne le fait pas par devoir, on le fait par amour pour le Seigneur. De toute façon, quoi qu'il en soit. Gâter, qu'est-ce que ça veut dire ? Gâter un enfant. Il aime les bonbons. J'en achète 10 kilos par semaine. Il est comme ça. Un enfant qui, peut-être, n'est pas aimé, on va lui céder, ou on sait à ce moment-là, hein, qui n'est pas aimé, on va lui céder, et on va toujours essayer de minimiser en rapport direct avec une récompense, un encouragement, ou soit le contraire, le casser, le briser, le dompter, le soumettre à la volonté, par la violence. Ouais, je voudrais pas... Moi, je stigmatise personne, hein, parce que bon, on a la vie qu'on a, et puis on a suivi comme on a pu. Voilà. Mais quelquefois, on est dans une société où il y a tellement d'enfants qui n'ont plus de, de parents ensemble. Alors, chacun y va avec... Et je pense que c'est pas bon. Quand il y arrive, même, c'est pareil, quand il y arrive à avoir un consensus, pendant qu'ils sont enfants, adolescents, et que là, ça fonctionne, c'est bien. Parce que c'est pas eux qu'on choisit, naturellement. Et puis les circonstances, peut-être, ont fait qu'on n'a pas jugé, naturellement. Mais on a tendance à les gâter. On a tendance à leur donner. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils en profitent. Ouais. Et on ne compte pas parce qu'on veut... Comme s'il y avait comme une culpabilité de vouloir rattraper les choses. Non. Un enfant, il a besoin de son papa et sa maman. Naturellement. Alors, ça, c'est aussi un problème. Le laxisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout simplement céder aux caprices et qui rend, sur le temps, les enfants irresponsables, inconscients d'une réaction automatique du « dû ». Vous me devez ça. Voilà. Hein? Et comme on le fait quelquefois avec Dieu, « Dieu, tu dois bien ça, hein, parce que moi, je prie 25 heures par semaine de 24. Hein. » Alors, pas de problème, hein. Tu me dois, c'est le dû, ça. Et on parle comme ça à Dieu, parce qu'on pense qu'il nous le doit, mais Dieu ne nous doit rien. Il faut que ça rentre, parce que ça, c'est des blocages terribles. Hein. On exige le droit obligatoire pour cet enfant, le droit obligatoire de lui donner tout ce qu'il exige. Mais un enfant n'a pas de limite. Hein. Ce qui est bon, ce qui est mal. Même dans les choses qu'il appellera peut-être lui-même loisir, plaisir, etc. etc. Hein. S'adresser. Notre Père qui es aux cieux, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Mais non, mais le Seigneur ne nous doit rien, c'est tout. Hein. C'est l'autre version, c'est le Nouveau Testament. C'est la grâce que l'on saisit par la foi. Mais Dieu n'est pas obligé de nous le donner. Et s'il nous fait attendre, c'est parce que quelquefois, eh bien, nous ne sommes pas toujours très au clair par rapport à cette démarche de grâce. Moi, je me suis retrouvé quelquefois dans des réunions de prière, c'est pas ici, hein, mais où Dieu dit, quand il y avait des problèmes de maladies graves, etc., en disant, Seigneur, pour ton serviteur ou pour ta servante, enfin, chrétien, eh bien, tu nous dois bien de le guérir. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ça crée une sorte d'attentisme malsain chez ceux qui prient comme ça. Non par reconnaissance des personnes qui donnent, mais pour des intérêts, pour les intérêts qu'ils en retirent. Celui qui donne, vous savez, c'est du clientélisme. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et on peut finalement, eh bien, se faire une clientèle comme ça avec nos propres enfants. Et ça, c'est nourrir son ego. C'est pas mourir à soi-même. Les êtres, je voudrais le souligner, les êtres ont plus de valeur que les choses fâcheuses. Les habitudes devenant une exigence de plaisir, une prison du devoir où il faut sans cesse donner. Et là, dès que vous avez quelque chose qui est réclamé par un adolescent, admettons, alors avec quelques billets, ceci et cela, mais il va revenir à la caisse. Hein. Vous êtes la banque et il va revenir. Hein. Et le jour où ça va s'arrêter, si ça s'arrête, eh bien, je peux vous dire que ça ne va pas faire du bon travail. Je vais finir bientôt. Les parents laxistes, c'est-à-dire tous les deux là, ont une crainte viscérale d'être moins aimés s'ils ne satisfont pas à l'exigence de leurs enfants. Je parle au pluriel, toujours. Hein. Oui. Ah ouais, ben j'ai le sentiment. Alors, il y a des frustrations. Alors, bien sûr, si c'est un contexte, comme nous l'avons dit, de séparation, là, les choses sont un peu brouillées. Il y a du brouillard sur la ligne, on pourrait dire. Hein. Alors, ils se sentent moins aimés et en disant, bien voilà, qu'est-ce que l'on peut faire? Et s'ils ont la pensée de refuser, alors à ce moment-là, on va leur dire, ouais, mes parents ne sont pas bons, ils sont rigides, ils confondent, finalement, eh bien là, l'indulgence coupable, voire incapable de dire non. Et c'est une forme de démission. C'est malheureux à la société dans laquelle on est. Mais je dis ça devant vous, mes frères et sœurs, c'est parce que ça existe tellement... C'est tellement présent dans le monde dans lequel on est, avec toutes les conséquences que l'on voit, que l'on, que l'on récolte quelque part, mais dans l'Église, c'est tout à fait différent. Seigneur, apprends-moi à bien aimer et à aimer justement. À commencer par nos enfants. Parce que toute cette déviation eh bien, produira chez l'enfant non repris ce caractère. L'enfant devenant un éternel mécontentement. Et lorsqu'il aura 40 ans, 50 ans, et même plus tard, eh bien, il se comportera comme un gamin, peut-être dans les derniers jours de sa vie. Ça sera un exigeant, ça sera un enquiquineur. Oui, les vieilles personnes, quelquefois, elles s'en oublissent, ou elles deviennent meilleures en vieillissant, c'est la sagesse. Les cheveux blancs. Hein. Oui, ouais, je suis tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Ou alors, à ce moment-là, eh bien, elles vont devenir aigries, elles vont devenir amères, et ça, c'est pas bon. Hein. Un éternel mécontent, un frustré, voire un révolté. Et c'est lui qui casse là dans les îles, et puis même chez nous. Hein. Vous savez, les problèmes là, les bonnets rouges, les gilets jaunes, et puis tout le reste. Hein. Mais où on va? Où on va? Il y a un problème. Hein. 68 n'est pas fini. Il est interdit d'interdire. Les pouvoirs publics, j'entendais ça dernièrement, vont interdire le téléphone portable dans les écoles à partir de 11 ans. Et quand on voit que c'est même avant, hein, des petits gamins qui ont des téléphones portables, et ils ont tout dessus. Hein. Enfin, c'est très perfectionné aujourd'hui. Hein. Alors on dit maintenant, l'école c'est pour apprendre la vie, c'est pour apprendre scolairement, c'est pour apprendre à avoir la connaissance. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Avec tout ce qui peut passer, finalement, devant eux. Et ça devient une addiction. Je le dis tous les jours à mon épouse. Tu sais, on passe devant les arrêts de bus, là, et tout ça, ils sont tous en train d'attendre. Ils regardent pas le bus venir. Je le fais mal parce que je suis pas un adepte. Hein. Mais c'est vrai, tous les gens sont comme ça. Moi, je me dis, il prie. Non, il prie pas. Pourvu que le bus arrive à l'heure. Non, mais c'est vrai. Alors moi, je me moque pas, mais on se voit que maintenant, c'est la génération et c'est la société, la civilisation dans laquelle on est. Et ça casse les relations les uns avec les autres. On ne fait plus la causette en attendant le bus maintenant avec le voisin et la voisine. Ça ne se faisait peut-être pas non plus. Alors, je vais conclure d'ici quelques instants. C'est une nécessité finalement, d'abord à commencer par nous, et puis parce que nous sommes dans une société de à la dérive. Je finis par ceci. Les parents. Il y a la position paternelle, attention, hein, et il y a la position maternelle. J'ai décrit un petit peu, parce que bon, il y a l'autorité, voilà, on la connaît. Hein, et puis il y a une autre autorité, elle est beaucoup plus certainement sensible, plus bienveillante, encline à pardonner, des choses comme ça. Mais bon, il faut ça. Et si Dieu l'a donné, s'il a donné un papa et une maman, s'il a donné l'homme et la femme, chef, tous les deux de la famille, hein, parce qu'il n'y a pas de différence. Hein. Il ne doit pas y avoir de différence. Alors, à ce moment-là, eh bien, il faut parler le même langage et avoir le même visage devant les enfants. Parce que s'il y en a un qui tire à huer et à dire, ben, ça ne va pas aller, hein, y a pas de problème. Alors, moi, j'aurais parlé. Mes frères, laissez-moi vivre encore à la fin de la journée. Il y a la position des pères, position paternelle dans l'éducation des enfants. Ce que j'appellerais les impétuosités ou les humeurs masculines. Ah bah, hey, on a des gros bras, regardez-moi. Hein. Eh oui. Et il y a deux textes qui sont intéressants. Dans Éphésiens chapitre 6, écoutez bien. Enfants, ça commence par les enfants, hein. C'est un ordre. Obéissez à vos parents, car cela est juste et de bonne mesure. Honore tes parents. C'est encore pour les enfants. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ne les exaspérez pas par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amertume ou d'amère ressenti contre vous. Oh là là! Les garçons, peut-être avec leur père. Les filles, peut-être. peut-être avec leur mère, ou peut-être les deux hein, sont dans la même situation, d'amers ressentis contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque. C'est pour ça que j'ai lu dans Hébreux tout à l'heure. Pour, comme il nous éduque nous-mêmes, et prenez soin de les avertir et de les reprendre si cela est nécessaire. Élevez-les dans une discipline, écoutez bien le mot, aimante. Tout doit reposer sur l'amour. J'aime mon fils, j'aime ma fille, j'aime mes enfants. Et nous collaborons tous les deux, avec un même visage, un même regard, une même parole, l'homme et la femme. Et puis dans Colossiens, il est dit ceci, « Père, évitez !» Alors même s'il y a des impétuosités au niveau du caractère, quelquefois on est fatigué, on arrive du travail, on a faim, etc. etc. Maman, il faut qu'elle se presse pour faire la cuisine à tout le monde. En plus de son travail, vous savez que vous travaillez deux fois plus, hein, et vous êtes payé deux fois moins. Allez, on monte un syndicat. Évitez de faire perdre à vos enfants leur courage. Ouais, parce que vous savez, on est quelquefois confronté avec des comptes rendus d'enfants qui n'aiment pas leurs parents, mais les parents n'ont pas su se faire aimer. Eh oui, parce que peut-être eux-mêmes, ils ont vécu peut-être des choses difficiles avec leur père, leur grand-père, ou je ne sais pas où est leur père, en tous les cas. Ils ont été maltraités, et c'est ce qui fait de la violence. Et la seule chose qu'ils gardent, c'est que le jour où ils deviennent adultes et responsables, et sans être responsables, eh bien, ils refont ce qu'on leur a fait eux-mêmes. Ça, c'est vrai pour le viol, c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Quel monde dans lequel on est, mais comment le reprendre? Eh bien, si, il y a un moyen. Notre Père qui est aux cieux. La parole nous dit, écoutez, vous avez plein de conseils, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Absolument. La conclusion, et je la terminerai sur le mot amour. Amour. Exemple d'amour entre les parents. Il y a un effort à faire. Moi, je le dis toujours, quand je suis confronté avec des fiancés et que ça pétille de tous les côtés, ça jaillit, vous savez, c'est du sentiment. C'est bien, c'est de l'émotion. On découvre finalement quelque chose. Mais attendez-vous, hein. C'est pas ça l'amour. C'est le début, c'est l'amorce, on pourrait dire. Mais après, il va falloir aimer complètement et toute la vie. Aïe, 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 c'est autre chose. Oui. Être amoureux est une chose, aimer, c'est deux choses différentes. C'est encore une autre chose. Donc l'exemple d'amour entre les parents. L'amour pour chacun des enfants, sans favoritisme. Ah, mon petit, ma petite, etc., etc. Puis les autres, ils voient ça, mais je peux vous dire qu'ils sont malheureux, les autres. Hein. Quand on fait du favoritisme, il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Ben vous savez, dans la Bible, hein, dans l'histoire de Jacob avec ses fils et ses filles, etc., etc., hein, il aimait bien son petit Joseph. Alors n'ayez pas de Joseph, ayez des enfants et que vous aimerez d'une manière égale, pas de problème. Et puis ça nous amène à l'amour des autres. Pas l'amour de soi en particulier, en priorité, mais l'amour des autres. L'amour est le parfait antidote qui éclaire, ouais, qui favorise les échanges. C'est-à-dire parler entre nous, écouter, les efforts de compréhension, l'encouragement de ne jamais rabaisser l'enfant. Tu es un bon à rien, tu fais rien, regarde ton carnet de notes, etc., etc. Si vous dites ça, vous le grillez pour le reste de la vie. Et bien même si l'enfant ne travaille pas toujours très bien, et bien cherchez le moyen pour qu'il travaille mieux, une chose, peut-être dans ses conditions, peut-être dans sa scolarité, dans un endroit ou dans un autre, mais une chose qui est certaine, il ne faut pas le casser l'enfant, il faut même l'encourager. Non pas l'encourager à avoir des listes de zéros qui n'en finissent pas, hein. Mais l'encourager que dès qu'il y a un petit mieux en disant « ben voilà, c'est bien mon chéri, oui, c'est bien ». Devenir un homme, c'était le thème, quelle racine et quel terrain, oui, parce qu'il y a une nourriture essentielle, vous savez, c'est comme un arbre ça, un enfant. Il est une petite plantule de rien du tout. On va l'écraser si on marche dessus et qu'on ne l'a pas vu. Après, il va devenir un arbuste. Ensuite, il va devenir un arbre. Il va y avoir naturellement le tuteur, c'est le tronc. C'est lui qui tient, c'est lui qui est enraciné. Et il est bien enraciné. Et puis, il y a le feuillage qui fait la beauté de la vie. Une jeune fille, un jeune homme, une femme, etc. Et puis, il y a les fruits. Parce que c'est ça ce qu'on attend en fin de course. Les fruits. Et les fruits qui soient de la même espèce et qui soit le reflet de l'arbre, de l'espèce de l'arbre. Hein. Ah oui. J'ai trouvé des bananes sur un figuier. Alors là, allez-y, hein. Si vous le trouvez, vous venez, et puis on partagera une salade de fruits. Voilà. Et les fruits, ce sont ceux de l'esprit. Parce que ça va donner de la solidité, de la robustesse, comme un arbre planté auprès des eaux. Vous connaissez le Jérémie ? Écoutez, c'est très bien ça. Il est dit ceci. Prenez exemple. Béni soit l'homme qui se confie, béni soit l'enfant qui a été formé comme un homme, qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et il étend ses racines vers le courant, parce que, vous savez, c'est la fraîcheur qui est nécessaire. Hein. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Une bonne réputation, même jusque dans la blanche vieillesse, dans l'année de la sécheresse, parce qu'il y en aura des épreuves. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit que l'Église véritablement tienne compte de cela. Et l'Église, non seulement elle est née, mais elle va renaître, même si quelquefois elle passe des moments difficiles. Et ça, c'est pas seulement notre petite communauté ici, mais c'est toutes les églises. Et nous ne voulons pas mourir. Que Dieu nous donne finalement un héritage formidable que nous allons entretenir et que nous allons porter, eh bien, jusqu'à maturité. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, l'enfant, eh bien, en devenir homme, en devenir adulte, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier parce que ta parole est un trésor, une richesse, une perle, Seigneur. Eh bien, c'est vrai que nous ne pouvons pas porter, en effet, Seigneur, toutes les responsabilités. Mais il y a des choses qui appartiennent à notre vie, parce que tu nous as donné la vie, et nous devons la transférer, cette vie, la transférer en bien, afin que véritablement ceux qui viennent derrière nous puissent avoir des bases comme l'arbre qui est planté auprès des eaux. Et nous voulons te louer et te remercier. Moi, je te demande de visiter les parents dans cette église. Je te demande de visiter les enfants, nos enfants, Seigneur. Je te demande de les garder dans le monde dans lequel ils sont, au travers la scolarité et tout ce qui s'y passe. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu les gardes purs dans leur cœur. En effet, nous savons que tout cela, Seigneur, peut être demandé. Et d'avoir une attention spirituelle pour nos enfants. Et nous voulons te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que nous n'aurons pas à pleurer, nous les parents, dans les temps qui vont venir, les temps qui sont venus peut-être, et puis la misère qui peut exister dans notre monde, un monde qui se dégrade, un monde à la dérive, un monde dans le désordre. Alors bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus, aide les parents, Seigneur, eh bien, à faire ce qui est nécessaire en se tenant dans l'intercession, dans la prière pour leur progéniture. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci pour ta parole que tu graves dans nos cœurs. Amen.